Bonjour Ibrahim Malouf.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, ça va.
Malgré tout, j'ai envie de vous dire, est-ce que tout va bien ?
On fait aller.
Cet album Trumpets of Michel-Ange, c'est une façon aussi de tenir le coup un peu face à l'actualité et à la vie. C'est un album joyeux, c'est un album de fête.
Oui, moi je différencie un peu la joie du bonheur. Mmh. Et être heureux, c'est une chose. Être joyeux, c'est déjà beaucoup plus accessible. Mmh. Et je me dis qu'avec un peu de joie, on peut contribuer et espérer. Et c'est vrai que là, les temps sont un peu durs pour le Liban. Je pense que je vis au pouls et au battement de cœur libanais toutes les secondes là, en ce moment. Donc c'est un peu triste. On a toute notre famille là-bas. La vie, en tout cas la nôtre, pour l'instant, continue. Et si je peux, avec cet album, avec cette musique, avec nos concerts, faire en sorte que au moins la vie de ceux qui l'écoutent soit un peu plus joyeuse, ça serait déjà ça.
C'est le 16e album studio qui est sorti le 20 septembre. Et c'est aussi un disque hommage au travail de votre père, parce que c'est célébrer l'instrument, cette trompette particulière, cette trompette avec un quatrième piston. Vous pouvez nous en parler ?
De la trompette ?
Oui, de votre papa, de la trompette. Il y a plein de choses à raconter.
Là, oui. Je pourrais en parler des heures, parce que c'est d'abord, c'est un album et des musiques que j'avais envie de faire depuis très très longtemps.
Oui.
Et je sentais qu'il fallait... Il fallait que j'aie la maturité pour le faire, l'expérience pour le faire, prendre le temps de bien faire les choses aussi. C'est un album qui a été enregistré vraiment en live. Mm-hmm. Donc il n'y a pratiquement pas de post-production, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est vraiment live comme on en faisait il y a longtemps encore, ou comme ça se fait encore, mais très peu. Et c'est un hommage en effet à l'invention de mon père, à son histoire, aussi au parcours de mon père, à l'héritage qui est en fait un héritage libanais mais francophone, et de qui est un héritage du mandat français lui-même, qui est cet esprit des fanfares. La pochette de l'album, c'est la fanfare de notre village. C'est une photo de 1925, donc elle a exactement un siècle.
C'est une vraie photo, hein.
C'est une vraie photo, mec. Mm-hmm. Et c'est dans cette photo, on voit mon grand-père qui avait 20 ans, donc c'était avant même que mon père soit né. Mm-hmm. Et dans cette fanfare, on sent l'esprit libanais, on sent l'esprit ils ont leur tarbouche là sur la tête, mm-hmm. on sent la culture arabe, héritage de l'Empire ottoman, etc. Mais on sent aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est ces instruments qu'ils ont dans les mains, qui sont des instruments européens. Et c'est ça aussi l'héritage du mandat français au Liban. Et donc, c'était une manière aussi, cet album, de rappeler que là d'où je viens, c'était déjà un mélange culturel entre l'Europe et les cultures arabes. C'était un mélange entre la France et le Liban. C'est cette culture-là, cette culture des fanfares, cette culture populaire. C'est ça qui a donné envie à mon père de faire de la musique. C'est ce qui a ensuite... m'a poussé à devenir musicien aussi, être trompettiste. Donc, c'est voilà comment célébrer cette transmission de génération en génération, comment célébrer cette amitié franco-libanaise qui existe depuis toujours, surtout en ce moment, parce qu'on en a beaucoup besoin aussi au Liban. Tout ça mélangé dans une histoire, et j'en ai fait comme un grand mariage. Et cet album est une sorte de grand mariage.
Et ça peut même ressembler à une musique de fête de mariage. Quand vous dites... On a l'impression qu'on fait la fête tout le temps.
Mais ça l'est même. Oui, ça l'est. D'ailleurs, la toute première musique de l'album s'appelle The Proposal, la demande en mariage, en gros. C'est une musique qu'on a créée le jour de mon mariage. Elle a été vraiment... J'étais avec mes potes, mes musiciens, ceux qui sont avec moi sur scène. Et moi, mon témoin de mariage, c'est le guitariste qui joue avec moi depuis plus de 15 ans, donc François. Et on était ensemble en train de jammer, vraiment après mon mariage, le soir, la nuit de mon mariage. Et ce morceau est né comme ça. Et... ça a été la première impulsion. Je me suis dit, voilà, c'est à travers cette joie-là. Alors, on n'est pas forcément heureux, comme on l'entendrait, mais on a cette joie-là tous ensemble, et c'est elle qui nous permet de partager ces moments qui sont précieux. Et ça a été le point de départ de ce processus qui était de dire, OK, c'est maintenant. Voilà, je vais faire cet album maintenant.
Parce que est-ce que vous aviez tenté de l'enregistrer il y a quelques années en vous disant c'est pas encore le moment, il faut attendre, il faut que les choses se passent.
Absolument,
que je me marie moi-même.
Absolument, et je vais même vous dire, avant même que je sorte mon tout premier album en 2007, donc ça commence à dater, bientôt, dans pas très longtemps, ça fera 20 ans quand même, c'est fou. J'avais créé un groupe qui s'appelait Farah, F-A-R-A-H, qui veut dire la joie. Et j'en avais déjà beaucoup besoin. Et dans ce groupe-là, j'avais déjà commencé à travailler autour de cette notion de la joie. Et c'était uniquement des mélodies qui étaient très festives, pour la plupart en tout cas, qui étaient liées à l'idée de l'union, du mariage, etc. Je parlais du mariage de mon père, je parlais du mariage de mes grands-parents, je rejouais un morceau qui était une sorte de célébration de mariage que mon père avait composé pour sa propre mère. Donc il y a tellement de choses à raconter, je pourrais en parler des heures. Mais donc oui, en effet, cette idée-là, elle germait depuis très longtemps, mais je n'étais pas prêt. Et je sentais qu'il fallait que je passe par un très long processus et que quand ça allait être le moment, ce serait le bon. Et en effet, c'est peut-être symbolique, mais c'est le jour de mon mariage que j'ai compris que c'était le bon moment.
C'est beau.
Ouais.
Et puis, autre mariage entre l'Orient et l'Occident, le son arabe, le son africain aussi. Il y a un peu d'Afrique dans cette musique-là.
Dans la culture arabe, que les Arabes le veuillent ou non, il y a beaucoup d'Afrique aussi. Mmh. Et... je sais que ça fait toujours un peu polémique quand on parle de ces choses-là. C'est comme quand j'aborde l'importance du métissage dans le domaine de la musique classique.
Allez-y.
mais moi, je suis très attaché à l'idée qu'il y a dans chacune des cultures des influences du monde entier. Et de la même manière que dans le rap, si vous parlez à des vrais rappeurs, ils vous diront que le jazz, le negro spiritual, l'Afrique, mais aussi la musique classique et d'autres musiques d'influence ethnique de partout, sont inscrites dans l'ADN du rap, etc. Ou même des gens qui connaissent très bien la musique classique, qui n'ont pas peur de dire que la musique classique a été énormément inspirée de musique populaire, de musique de la rue, etc. Donc j'aime l'idée qu'en fait, en nous, il y a beaucoup d'autres choses que juste ce qu'on voit ou ce qu'on imagine. Et quand, par exemple, moi je me souviens, quand j'ai commencé à faire de la musique et qu'on me disait... Ibrahim Malouf, qui vient de la banlieue parisienne, tout de suite les gens se disent « Ah oui, c'est un gars de la banlieue, etc. » Alors que pas du tout, je n'ai pas du tout été élevé là-dedans. Et on aime bien mettre les gens dans une boîte comme ça. Donc lui, c'est le trompettiste qui fait de la musique arabe. Lui, mais il fait un peu de jazz. Ouais, on ne sait pas trop si c'est du jazz, etc. etc. Donc, et j'aime brouiller les pistes parce que je me dis que c'est presque drôle. Mm. C'est presque drôle, il faut brouiller les pistes. C'est comme quand on va, et moi je le fais très souvent ça d'ailleurs, ça choque un peu, mais bon, c'est comme ça. Quand on va à un dîner, par exemple, une grande invitation, et tout le monde est hyper bien habillé. Moi j'aime bien venir en basket, un jean propre, mais un jean, etc. J'aime l'idée de bousculer un peu les codes, de venir avec un truc à capuche à un moment où les gens se disent « Ouh là là, pourquoi il met ça? C'est pas bien. » J'aime ce truc de bousculer un peu les codes. J'ai toujours détesté les dogmes, j'ai toujours détesté les certitudes, surtout dans ces domaines-là où on sait absolument rien, où tout est mélangé, tout est... toutes les cultures sont toujours inspirées de plein de choses. Et voilà, j'essaie de le faire à travers la musique, là aussi.
Mais est-ce que vous osiez arriver dans des soirées comme ça avant d'avoir cette célébrité-là? Parce que maintenant, on peut se dire que vous pouvez tout vous permettre.
Ah non, alors déjà, pour le coup, non, moi, je ne suis pas célèbre.
Pourquoi pas?
Je ne me considère pas comme célèbre, mais j'ai la chance d'avoir un public qui me suit, qui est fidèle. C'est très différent, je trouve. Alors après, le nom... vous savez, le nom, et les gens font ce qu'ils veulent. Hein. On l'a bien vu ces dernières années. Moi, mon nom, ils le prennent, ils le mettent dans la boîte qu'ils veulent. C'est pas très grave. Mais par contre, j'ai toujours eu cette liberté. Ouais. Mmh. J'ai toujours eu cette liberté. Quand j'étais à l'école, quand on est arrivé en France, mes parents m'ont mis dans une école qui était à l'époque une école catholique, privée, mais tenue par des sœurs libanaises. Et ils se disaient, Ibrahim, vu qu'il parle que arabe, ça va être bien pour lui d'être dans une école où les sœurs sont libanaises, comme ça quand il parle, elles vont comprendre, et du coup il va s'intégrer plus facilement dans la société française, etc. etc. Et ça s'est pas bien passé parce qu'elles étaient dogmatiques, c'est-à-dire que l'enseignement était très rigoureux. Ça, j'ai pas de problème avec la rigueur, je pense être moi-même quelqu'un de très rigoureux, mais il était c'était une monodie, quoi. Il y avait une seule mélodie possible, il n'y avait pas de contrepoint. Et moi, ça, c'est pas possible, c'est pas la société dans laquelle j'étais heureux. Et déjà à cet âge-là, je me rappelle, j'avais 10 ans, j'étais en CM1, j'ai quitté l'école en claquant la porte, mais vraiment en plein cours, j'ai claqué la porte de la classe. La prof m'a engueulé, mais tu vas où? J'ai claqué la porte, je suis sorti et je suis rentré chez moi à pied, chose qui ne se faisait jamais. Mes parents venaient toujours me chercher à l'école. Je suis revenu à pied tout seul, j'ai dit à ma mère, je veux plus aller à l'école.
Wow.
Et donc cette indépendance, en fait, de cette liberté, je crois que je l'ai toujours eu. En me revenant en arrière comme ça, en remontant le plus longtemps possible, je crois que je l'ai toujours eu. Et même quand mon père était extrêmement dur avec moi, parfois mon père il nous giflait, parfois c'était dur, des fois je le regardais comme ça, je lui dis vas-y, ça me fait pas mal. J'avais même pas 6 ou 7 ans. Et donc cette capacité, finalement, de me libérer d'un truc trop rigide, trop dur, etc. Je crois que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire très tôt et que, du coup, j'applique à 3000% aujourd'hui parce que j'ai la joie de faire un métier que j'aime.
Et que vous transmettez aux enfants aussi? Au vôtre ou...
J'essaye.
Ouais.
J'essaye de transmettre, mais bon, j'ai 3 enfants, c'est pas facile d'être parent. C'est plus difficile que ce qu'on imagine. Et donc, j'essaie d'amener cette philosophie-là. Après, il faut toujours modérer. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça, mais c'est aussi parce que j'ai eu une éducation extrêmement stricte et très, 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 très rigoureuse. Donc, si les enfants sont déjà trop libres, il faut aussi amener un peu de rigueur. Donc, vous voyez, l'équilibre, il est partout.
Vous disiez tout à l'heure, Ibrahim, que le public vous suivait. On a parfois l'impression que votre public est plus ouvert d'esprit que certains critiques, que des gens du métier qui vont dire « Attends, mais qu'est-ce qui nous a fait cette fois-ci ? Vous sortez beaucoup de disques, vous travaillez beaucoup, vous avez toujours un projet d'avance. Trompette de Michel-Ange vient de sortir, mais l'album suivant, on en entend déjà parler. » Est-ce que le public, il sera là ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est plus ouvert que... Est-ce que vous avez un lien très fort avec lui ?
Écoutez, je ne généraliserai pas. J'ai un lien fort avec le public, oui, parce que je le vois, je constate en fait simplement que peu importe le projet que je fais, le public adhère à l'idée que c'est une expérience. C'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Le public, il... Même un public qui n'est pas forcément très averti est capable de ressentir. Même un gosse qui n'a jamais fait de musique va savoir s'il aime ou s'il n'aime pas quelque chose. Donc il n'y a pas besoin d'être extrêmement cultivé pour aimer ou ne pas aimer, ou sentir ou ne pas sentir. Après, avoir la culture de la musique, c'est un autre domaine, et c'est de l'histoire, c'est de l'anthropologie, c'est beaucoup d'autres choses. Ouais. Mais le fait d'aimer ou de ne pas aimer, c'est beaucoup plus simple finalement, c'est beaucoup plus facile. C'est simplement, est-ce que ça me parle, est-ce que je ressens quelque chose ou est-ce que je ressens pas quelque chose. Comme quand on rencontre des gens, il y a des gens qu'on sent et des gens qu'on sent pas. C'est pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais c'est juste des gens avec qui on va peut-être pas connecter.
Oui, c'est ça, c'est la connexion.
C'est la connexion. Et je trouve qu'avec la musique, le problème des critiques en général, ou des critiques de jazz par exemple, ou des critiques musicologiques, c'est qu'ils veulent absolument mettre des mots sur des choses où il y en a pas. C'est qu'il y a toujours nécessairement l'idée qu'il faut définir les choses, les mettre dans des dictionnaires, les labelliser, etc. Ce que je comprends d'ailleurs, parce que l'industrie a besoin de ça. On ne peut pas vendre quelque chose si on ne le nomme pas. Une pizzeria, c'est bien l'endroit où tu vas manger une pizza.
C'est ça.
Et quand tu veux manger un taboulé, a priori, ce n'est pas dans la pizzeria que tu vas la manger. Donc, je comprends d'un point de vue commercial, pour l'industrie de la musique, pour tout ça, il faut labelliser. Et je suis d'accord avec ça. Mais le piège, c'est quand ça va trop loin et que la labellisation devient un jugement. L'avantage du public, c'est que lui, il ne te juge pas. C'est où il aime, où il n'aime pas. Et donc, moi, j'ai plein de fois des gens qui viennent me voir en concert qui me disent « Écoutez, je n'ai pas aimé cet album, j'attends impatiemment le prochain. Par contre, j'ai beaucoup aimé le quatrième ou le cinquième, etc. etc. » Donc, les gens vous donnent un avis très franc, très honnête. Et en général, ils sont beaucoup plus objectifs parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux.
Ouais.
Le résultat est beaucoup plus objectif que l'avis d'une personne qui n'a pas aimé parce qu'elle a trouvé que la guitare était trop forte ou parce que la batterie ne sonnait pas comme elle voulait. Et une dernière chose là-dessus aussi, c'est que quand j'ai sorti mon premier album, dans l'idée de cette labellisation et de cette définition, quand j'ai sorti mon premier album, en général, les critiques ou de jazz, par exemple, ont conclu que ma musique, c'était ça. Or, moi, en concert, je ne jouais pas ce premier album. Mes trois premiers albums, je jouais des musiques qui n'avaient rien à voir avec mes albums, chose qui ne se fait jamais dans notre business. Et donc, les gens ont tout de suite compris que je n'étais pas limité à ce qui avait été produit sur mon premier album, ni sur le deuxième, ni sur le troisième. Et les gens qui m'ont suivi dès lors, ils étaient déjà acquis à l'idée qu'on allait vivre une expérience pendant cette vie. Et que tous ces albums, c'est des expériences. Vas-y, essaye de goûter ça. Tiens, c'est comme vous prenez quelqu'un dans votre cuisine, vous faites, tiens, j'ai essayé ça, regarde, t'aimes bien ou pas ? Ok, attends, je te montre un autre truc, t'aimes bien ça ou pas ? Ok, c'est ça là, t'aimes bien ou pas ? Et je passe ma vie à faire ça en fait avec le public.
Ouais, mais si au bout de deux fois on n'aime pas, on revient pas. Et là, le public vous fait confiance et vous suit. Vous le dites, c'est une expérience.
Oui.
Il vient, il sera là pour le prochain album.
Ouais.
Il a.
Ouais, ils sont rares, là. Ça. Mais après, je pense que je perds des gens aussi et j'en récupère d'autres aussi. Enfin, je pense que c'est le public, c'est pas non plus des moutons qui suivent bêtement. Le public, oui. Encore une fois, où il aime ou il aime pas. Ça, il y a un truc qui me touche beaucoup et ça m'est arrivé très souvent. Ça m'arrive encore des fois là maintenant. Y a des gens par exemple qui m'ont envoyé des messages quand j'ai sorti par exemple Illusion. Illusion, c'est un album qui est un peu une sorte de tribute au rock des années 70, Led Zepp, etc. Et moi j'aime beaucoup ça. Et qui m'ont dit, moi j'ai décroché là. Moi j'ai décroché, c'est pas mon style. Je dis ok. Bon, parce qu'ils avaient aimé les précédents albums, etc. Et puis. Il y a même parfois des courriers, hein, vous savez, les fans, comme ils s'attachent à votre musique, ils sont déçus, ils sont même vexés, vous les décevez. Parce que... Et puis cette même personne me renvoie un message 6 ou 7 ans plus tard en me disant « j'ai réécouté l'album, j'avais pas compris ». Et pourquoi ils ont fini par convaincre? Parce qu'en fait, ils ont écouté d'autres trucs et ils se sont dit d'accord, il nous a juste fait une proposition, on n'était pas obligé de l'accepter. Et maintenant que le temps a passé, il y a des trucs qu'ils ont fini par aimer, et notamment le morceau True Story. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens au début qui ne l'ont pas compris parce qu'il était dans cet album très rock, etc. Mm-hmm. Puis qui reviennent dessus, ils l'ont écouté en concert, ils font mais j'ai déjà entendu ça. Ils vont chercher dans les albums, ils font ah, mais c'était dans cet album-là que je n'avais pas aimé, ouais, au départ. Et maintenant, je comprends pourquoi, qu'il réécoute, etc. Et cette remise en question permanente, je trouve que c'est ce qui nous rythme. C'est ce qui fait qu'on fait le métier qu'on fait.
Mais il faut aussi avoir une belle relation affective pour que ça dure, ça. C'est comme dans les histoires d'amour, on peut être fâché, se pardonner, revenir et puis être à l'écoute de, ouais, de différentes propositions. Donc, c'est il y a vrai. Ce lien-là.
Oui, c'est vrai. Après, vous savez, j'ai l'impression, en tout cas, d'entretenir un rapport très sain avec les gens qui écoutent ma musique, mon public, comme on dit. Mais j'ai un rapport très sain. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne donne l'impression, et effectivement, en l'occurrence, c'est le cas, parce que je n'ai pas cette impression-là, que tout est acquis. Je me bats constamment pour que ma musique existe, en tant qu'indépendant d'ailleurs, d'autant plus. Quand on est artiste indépendant, on n'est pas gâté par un système d'industriel, enfin, je sais pas comment on dit, mais j'ai pas une major derrière moi qui me dit vas-y, travaille.
Ah oui, c'est une entreprise, hein, c'est vraiment une entreprise.
Ouais, on est vraiment une boîte, c'est quoi. Une boîte, hein, on est une douzaine de personnes à travailler, c'est une famille, etc. Donc on est là, on bosse vraiment, quoi. Et je pense que, encore une fois, je leur dis, mais je me fous pas de la gueule des gens. J'essaie de faire des albums bien ficelés, bien construits, de qualité. Quand je sors un album comme ça où il y a une dizaine, à peu près, hein, globalement une dizaine de titres, il y en a une soixantaine avant. Et c'est ces 10-là que j'ai gardé. Donc c'est comme un photographe qui prend 4000 photos et à la fin, il en garde, il en garde 30 seulement ou 25. Donc, et cette sélection-là, le temps que je passe pour travailler dessus, je pense que je respecte vraiment mon public. Et je crois que les gens commencent à me connaître, parce que maintenant, voilà, au début, on ne connaît pas les gens, mais au bout de 25 ans, j'espère qu'à la fin, ils finissent par savoir que voilà, je n'ai pas la grosse tête, c'est pas parce que je fais un Bercy que je vais mettre des lunettes noires en vous parlant là, ici, en faisant genre, ouais, je suis une star, et moi, je n'ai pas de bodyguard derrière moi qui me protège quand je fais une interview. Je ne suis pas rentré dans ce truc du star system, etc. Malgré le succès, on a dépassé 1 million d'albums,
bravo, hein.
Ce qui est quand même un truc de fou.
C'est énorme.
Et je ne suis pas rentré dans ce truc-là. De la starification et tout. Je suis pas dans ça. Moi, j'aime la vie normale, etc. Donc, je pense que cette manière de voir mon métier me permet aussi de rester dans un monde normal, et donc de parler normalement, et donc d'avoir un lien hyper sain avec les gens qui m'entourent. Et l'argent que je gagne, parce qu'en effet, en tant qu'indépendant qui a ce succès-là, j'en gagne pas mal, je le mets au service de cette entreprise pour produire plein d'autres trucs aussi.
Oui, pour sortir.
Pas pour m'acheter des Jaguars et des trucs. Voilà. Donc du coup, je fais travailler des gens, je fais travailler une douzaine de personnes, etc. Donc cette manière d'envisager mon métier et ma musique fait que tout est sain, il me semble.
Et pour vous connaître un peu, on sait que vous avez toujours aussi à cœur de faire monter sur scène des musiciens, de faire découvrir des talents. Vous pouvez être vous-même complètement admiratif d'un saxophoniste qui va monter sur scène à vos côtés en disant « Écoute, lui, il est génial. Ouais. » Alors, plutôt que vous pourriez... Enfin, d'autres viendraient nous parler de leur propre album. Vous venez nous parler des musiciens qui vous accompagnent.
Parce que j'ai la chance d'avoir des musiciens extraordinaires à mes côtés. Parce que j'ai l'impression que, en tant qu'instrumentiste, je participe, je ne sais pas si je suis le seul, parce que je ne suis pas le seul, certainement, mais je participe à ouvrir une brèche dans une industrie musicale qui est difficile à percer, et ça va être de pire en pire de réussir à toucher un public un peu large, pour au moins pouvoir en vivre, etc. C'est quand même un truc, ça va être de plus en plus difficile dans les années qui viennent, et quand on voit que malgré les récompenses que j'ai pu recevoir, malgré ce qui est quand même fou, j'ai reçu 2 victoires de la musique, ça n'est jamais arrivé qu'un artiste non chanteur ou non chanteuse obtienne des victoires de la musique. Je suis le seul à avoir... C'est pas normal pour moi. Moi, je pense qu'il devrait y en avoir d'autres, parce qu'il y en a plein qui ont du talent qui pourraient... Mais ça veut dire qu'on a ouvert une brèche, on a ouvert un chemin qui n'existait pas. Et moi, je sais, parce que je les connais, qu'il y a des centaines de musiciens derrière moi qui attendent leur tour et qui sont extraordinaires. Mmh. Et sur 19 albums, là, c'est le 19e, mais sur 16 albums studio, pas un seul n'a été playlisté sur les grandes radios généralistes en France. Pas un seul.
C'est pas normal.
Et ça, c'est parce que je suis instrumentiste, parce que je fais pas de chansons. Et donc, malgré ça, on fait 3 Bercy, on fait des tournées de Zénith, on vend 1 million d'albums, on s'en sort, j'ai un public, je suis programmé dans les festivals, etc. Et pourtant, bah, ça rentre pas dans la tête encore. C'est-à-dire, c'est pas normal d'écouter de la trompette ou du violon ou du saxophone. Voilà, c'est pas normal comme on écouterait une chanson. Et donc, moi, je sais qu'ils sont derrière moi et qu'ils sont très nombreux et qu'ils ont un talent fou. Et à chaque fois que je peux, je fais, attendez, vous savez quoi ? Donnez-moi 2 secondes, j'en mets un devant et je dis regardez ça.
Pour vous avoir écoutez, vu à Bercy la dernière fois, il y a des gamins qui montent, on fait la guitare, à la batterie.
Toutes les générations.
Il y a des écoles de musique, il y a des chorales, il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est merveilleux. On va revenir à l'album Trumpets of Michel-Ange. Cette fameuse trompette, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de cet instrument que votre père a créé, que vous n'utilisez que celle-ci depuis des années. Que ce type de trompette depuis des années ?
Mon père m'a mis dans mes mains cette trompette quand j'étais petit, et j'ai jamais joué autre chose.
Voilà. Donc ça veut dire que par rapport à votre travail, vos compositions, le son, et aussi vis-à-vis de lui, vous pourriez difficilement jouer d'une autre trompette ?
Alors vis-à-vis de lui, non, parce que je pourrais. Mais c'est, vous savez, cette trompette, ce qui est génial avec cette trompette, c'est qu'elle a un truc en plus, mais elle a rien en moins. C'est-à-dire qu'elle n'est pas altérée, ce qui du coup m'autorise à faire des trucs et pas d'autres. Non. C'est une trompette qui a exactement les mêmes capacités que n'importe quelle autre trompette, qui a les mêmes options, tout pareil. C'est juste qu'elle a un truc en plus qui permet de jouer les quarts de ton. Et les quarts de ton existent dans toutes les musiques du monde. Pas que dans la musique arabe, ça existe dans toutes les musiques. Dans les musiques yiddish, dans les musiques africaines, dans les musiques indiennes, dans les musiques d'Asie. Toutes les musiques ont ces quarts de ton-là. Et donc, du coup, c'est génial, quoi, parce que c'est... Pourquoi j'utiliserais une trompette qui a un truc en moins alors que j'ai celle-là ? Au contraire, le rêve de mon père, quand j'étais petit, il me disait tout le temps, tu verras quand tu seras grand, tous les trompettistes du monde vont jouer cette trompette parce qu'ils vont comprendre qu'elle est géniale, parce qu'elle peut jouer toutes les musiques et tout. Et malheureusement pour lui, j'étais le seul à m'y intéresser. Et donc là, en ce moment, je suis en train de concrétiser le rêve de mon père.
Avec cet album et en commercialisant aussi ces trompettes qu'on peut...
C'est ça. En fait, j'ai créé une marque qui s'appelle Trumpets of Michel-Ange, T-O-M-A. Et qui, c'est vraiment exactement la même trompette que moi je joue. C'est le même modèle que je joue, qu'on a travaillé avec Adrien Jaminet, qui est un super fabricant de trompettes. Et on a fait commercialiser ça grâce à la marque Courtois, avec une version beaucoup moins chère, évidemment, que les trompettes professionnelles, qui peuvent être très très chères. Il y a les deux versions d'ailleurs. Et voilà, et du coup c'est accessible à tout le monde maintenant. J'ai créé une académie des trompettes de Michel-Ange, je donne des cours gratuitement, j'organise des tutos et des trucs gratuitement pour tous ceux qui ont cette trompette. Je les invite à monter sur scène à tous les concerts qu'ils veulent, quand ils veulent, sur cette tournée là gratuitement, et voilà. Et j'espère, mon père a 85 ans, il vit au Liban, et bon voilà, il est un peu fatigué, et j'espère vraiment qu'il va voir, il va se rendre compte que son rêve s'est réalisé. Voilà, et c'est un peu ça l'objectif. Et puis cet album, pardon, je parle beaucoup, mais
allez-y.
Mais cet album aussi, il a une dimension qui est très importante pour moi, parce que je considère que c'est, je dis que c'est un album de passage de relais. C'est le début d'une nouvelle page qui s'ouvre pour moi, une page où je commence à dire aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, tous ceux qui ont envie, tiens, la trompette, elle est à toi. Elle n'était pas destinée à être que à moi. Elle est destinée à tous ceux qu'on a envie. Quand mon père l'a inventée, elle était pour tout le monde, pas que pour lui ou pour moi. Et donc, je commence un peu ce processus-là, qui est de dire, voilà, je vais tout vous apprendre, tout ce que je sais. Et je suis sûr que vous allez aller 1000 fois plus loin que moi aussi, dans plein d'autres trucs. Vous allez avoir une super créativité. Et cette trompette, voilà, elle appartient à tout le monde. Même mon père n'a même pas déposé le brevet. Il s'en foutait complètement. Elle appartient absolument à tout le monde. Et pourvu que de plus en plus de gens en jouent et que ça devienne normal. Voilà, ça c'est, j'aurais concrétisé enfin le rêve de mon père comme ça.
Mais Ibrahim Alouf, est-ce qu'entre les lignes, vous êtes en train de nous donner un scoop, de nous dire que peut-être qu'un jour vous ne monterez plus sur scène ?
C'est même pas un scoop, je le dis déjà depuis super longtemps.
Vous voulez arrêter ? Faire quoi ?
Pas maintenant, mais bientôt, ouais. Ouais, je pense que
bientôt,
le...
c'est-à-dire ?
Mais moi j'étais pas fait pour faire de la scène déjà pour commencer. J'étais un enfant très introverti. J'étais très timide.
Vous avez bien soigné le truc. Ça marche bien.
Je voulais pas être en devant de scène. J'étais pas, quand j'étais petit, je faisais pas mon intéressant en prenant les micros, en chantant. Tout ça. J'étais pas du tout dans ce délire-là. J'étais vraiment très timide. J'étais un geek. Ma mère se réveillait en pleine nuit. Elle me voyait à 2h du mat' en train de jouer du synthé, en train d'inventer des musiques quand j'avais 10-11 ans. J'étais vraiment un nerd de la musique, de la production, etc. Donc je faisais que ça. Et j'aurais voulu faire de la musique de film toute ma vie. Moi, ça m'allait très bien. Et juste mes trois premiers albums que je considérais comme étant des musiques de film, mais qu'aucun réalisateur n'avait entendu pour savoir s'il les voulait ou pas. Et donc, par la force des choses, j'avais rencontré à l'époque celui qui est toujours d'ailleurs encore mon manager, qui s'appelle Jean-Louis Perrier, et qui m'a dit, mais si tu veux défendre ta musique, il va falloir aller sur scène. J'ai dit, mais moi, faire de la scène, je... j'ai pas envie. En plus, j'en avais déjà fait beaucoup avec mon père et j'aimais pas ça particulièrement.
Ah oui ?
Non, j'aimais pas trop. Ça me parlait pas trop. Mon père est monté sur scène très sérieux, comme ça. Il jouait, il saluait, il sortait. Je trouvais ça austère et j'aimais pas trop ça. Donc, c'était pas fait pour moi, quoi. Et donc, finalement, pour défendre ma musique, j'ai dû m'y mettre. Je l'ai fait. J'essaie de bien le faire. D'ailleurs, voilà, moi j'essaie de pas être austère sur scène, justement, de parler avec le public, d'être joyeux et d'essayer de créer une énergie. Comme ça, positive. Ouais. Mais c'est pas, je suis pas fait pour ça. C'était pas mon plan A, quoi. C'était même pas mon plan B.
Mais les plans, ils peuvent changer au cours.
Ils ont changé.
Parce que vous adorez parler sur scène et vous le faites très bien, c'est drôle. En tout cas, on le ressent comme ça. Mm. Vous faites de la télé, vous faites de la radio, on vous voit sur les réseaux.
Ça, c'est mon amour de la musique. Je défends ma musique corps et âme. Mm. Je pense que la musique, c'est. Le seul espoir qu'on a d'être connectés les uns aux autres, vraiment. Et je sais pas, pour m'apitoyer sur mon sort, pour faire ma victime, mais c'est un enfant de guerre qui vous parle. Moi, je suis né sous les bombes et j'ai connu les tensions, des religions, des identités. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça à l'arabe, j'avais 8 ans. Je veux dire, la connexion, je peux vous dire que quand tu prends ça à 8 ans, tu la veux, la connexion. Tu as envie d'être connecté aux gens. Tu n'as pas envie d'être le mec loin qui parle à personne, etc.
Ou tu peux être en colère aussi, hein.
La colère, c'était pas mon truc. Moi, quand je suis arrivé à la maison en pleurant, je me suis fait engueuler. Mon père m'a dit, mais tu pleures pour ça ? Tu pleures pour ça ? Et je dis, mais oui, mais. Et j'étais étonné, pourquoi mon père me dit ça ? J'étais même pas content. Je me disais, mais pourquoi il me défend pas ? Et après, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, la colère, ça sert à rien. Faut transformer en quelque chose qui nous unisse, qui nous relie, quoi. Et c'est pour ça que je défends ma musique à ce point. Pour ça, je dis corps et âme. J'y vais, corps et âme, j'y vais vraiment, je mouille le maillot, j'y vais, je défends ma musique. Et je pense que la musique a quelque chose que nous, on n'a pas. Vous savez, des fois, vous avez des gens qui vous disent « la musique, elle est arrivée toute seule, moi, je ne suis que le réceptacle, etc. » Et bon, moi, je ne le dis pas comme ça. Mais quelque part, ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que la musique a quelque chose qui nous dépasse complètement.
Oui.
Elle a quelque chose qui nous unit au-delà de nous, ce qu'on est. Elle nous dépasse à ce niveau-là. Elle est capable de faire des choses que nous, on est incapable de faire. Et j'y crois beaucoup à ça. J'y crois énormément. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle La petite philosophie de l'improvisation. Et je parle beaucoup de la force de l'improvisation, c'est-à-dire de la création. En fait, je parle de la musique, je parle de la création musicale. Mais à travers l'improvisation, cette capacité de nous unir, de trouver des points communs, etc. C'est un truc que dans la vie normale, on est incapable de faire. Parce qu'on est trop fragile, on est trop vulnérable. On est en train de conduire, on sent qu'on est... On est bien en train de... D'un seul coup, il y a quelqu'un qui passe, on dit « Oh, connard !» On est vulnérable, on est incapable, on est trop nerveux. On ne sait pas se maîtriser. La musique, elle se charge de tout. C'est l'émotion, elle va direct au cœur, ça te parle, point. Il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de... Moi, c'est pour ça que je dis toujours à mes concerts, quand ça avait choqué il y a quelques années, quand j'avais dit, moi, j'avais aucun problème si... dans mon public, il y avait des gens qui pensaient pas comme moi, et comme par exemple, je sais pas moi, s'il y a des gens qui sont du Rassemblement National, de l'extrême droite, etc., ça me dérange pas qu'ils viennent me voir en concert. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça ? C'est comme si tu légitimais. Je dis pas du tout. Parce que ces gens-là qui pensent complètement à l'opposé de ma philosophie, parce que moi je pense pas comme ça, je pense pas être d'extrême droite, je pense plutôt être dans autre chose, mais s'ils sont dans cette pensée-là, c'est qu'ils ont peur de quelque chose, ils craignent quelque chose. Il faut les comprendre et il faut se dire pourquoi est-ce qu'ils ont peur. Et quand ils viennent voir mon concert, peut-être qu'ils auront un peu moins peur. et voilà. Et donc, c'est quelque chose que tu pourras même pas faire juste en discutant. Non. Le discours, il ne sert à rien.
Bien sûr.
C'est la musique. Elle va rester dans les mélodies. Et ce monsieur ou cette dame qui vote Front National et qui dit en général « Ouais, il y a trop d'Arabes », etc. Un jour, ils vont être en train de conduire. Ils vont siffloter une de mes mélodies. Mm-hmm. Et là, ils vont se regarder dans une classe, ils vont faire « Oups ».
Séduit par le quart de ton.
Oups, finalement. Voilà, je me dis ça. En tout cas, c'est un peu naïf, mais en tout cas, si ça peut un peu contribuer à apaiser les cœurs, à faire en sorte que les gens se craignent moins, qu'ils aient moins peur les uns des autres, etc. Ça, c'est un truc que la musique peut faire que nous, on ne peut pas faire. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que je la défends de tout mon cœur. Et un jour, il faudra que j'arrête. Et j'aurai déjà transmis tout ça à la nouvelle génération. Et moi, je retournerai en studio composé pour le cinéma, peut-être. Ou, voilà.
ou faire du cinéma, peut-être réaliser un film. On se dit que tout est ouvert avec vous.
Je ne sais pas si je réaliserai un film. Mais par contre, j'aime l'idée que ça peut être possible.
Ouais.
Mais est-ce que je le fais, c'est pas grave.
Parce que nous, on l'a l'idée pour vous. On sait que c'est, tout est possible avec vous.
Non, c'est vrai que moi, j'adore l'enseignement.
Ouais. Vous n'avez jamais cessé d'enseigner.
Non, j'ai jamais cessé d'enseigner. J'ai commencé à enseigner à 17 ans. J'ai eu mon premier poste à 19 au conservatoire municipal de Viry-Châtillon. Après, j'ai eu très rapidement un poste, quand je suis entré au conservatoire de Paris, j'ai eu un poste au pôle supérieur Paris-Boulogne. Au... non, d'abord Aubervilliers, CRR d'Aubervilliers, pôle supérieur d'Aubervilliers et ensuite CRR de Paris-Boulogne. J'ai toujours aimé l'enseignement et en particulier enseigner l'improvisation. Et donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose que j'aurais envie de continuer à développer. Voilà.
Très bien, donc on note bien. Vous pouvez nous parler des musiciens qui vous accompagnent sur l'album ?
Ah bah j'ai une équipe de rêve. Dans cet album, d'abord, il n'y a pas de bassiste.
Ouais.
J'avais envie...
Et on peut se faire avoir entre nous. Hein. On peut croire qu'il y a une basse, il n'y en a pas. Hein.
Ça a été aussi surprenant pour moi.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, même nous, quand on est allé en studio au début, je leur ai dit, je veux essayer parce que je ne suis quand même pas trop sûr de mon coup. Mmh. Et je me suis dit, tiens, j'ai deux guitares, une électrique et une autre électroacoustique, mais jouer comme joue ce musicien-là, ça fait qu'on n'en a plus besoin. Et on joue sur les fréquences, on essaye de... On a beaucoup travaillé dessus, mais il n'y a pas de bassiste. Et donc, du coup, chacun des musiciens de ce groupe est indispensable. C'est-à-dire, s'il y en a un en moins, le projet il peut pas fonctionner.
D'accord.
Et donc, il y a François Delporte, qui est donc le guitariste qui m'accompagne depuis de nombreuses années maintenant, qui est une sorte de guitariste tout-terrain, qui va partout là où j'ai envie d'aller. Classique, jazz, musique orientale, musique un peu gypsy, des expériences, les musiques de films, les collaborations avec les chanteurs, chanteuses, etc. Il est vraiment tout terrain et j'adore travailler avec lui, c'est un mec génial. Donc voilà, lui qui est à la base harmonique. Il y a donc Julien Tequeyan à la batterie. Julien Tequeyan, on a grandi dans la même ville. On s'est connus un peu de loin, mais on s'est connus tout petit. Nos sœurs étaient dans la même école. On a grandi dans la même ville comme ça. Et on savait qu'on allait un jour travailler ensemble. Lui, il a beaucoup, beaucoup tourné avec plein de chanteurs, plein d'artistes. Et en particulier, 20 ans avec Chebraled. Donc, tous les rythmes orientaux, tout ça. Puis, il est arménien, donc il connaît bien cette musique-là aussi. Voilà, ça me semblait évident que c'était avec lui que j'avais envie de travailler sur cet album. Et donc, le guitariste qui remplace finalement le rôle du bassiste s'appelle Mohamed Derwish. Et c'est un musicien marocain qui maîtrise à merveille tout le jeu gnawa.
Okay,
donc quand il joue, on a vraiment l'impression que c'est une sorte de gembri, mélange avec de la mandoline, percussion, etc. On entend un peu la guitare, mais finalement pas énormément. Et donc voilà, leur trio là, de rythmique est juste incroyable. À côté de ça, j'avais besoin d'avoir à côté de moi Mihai Pirvan, qui est juste un saxophoniste.
Voilà.
C'est un saxophoniste rome que j'ai rencontré il y a quelques années.
Et vous nous avez présenté il y a quelques
années. Et voilà, qui est un génie du saxophone incroyable. Et donc je sentais bien que c'était avec lui que j'avais envie d'être en binôme. Et puis les trompettes, les fameuses trompettes de Michel-Ange qui nous entourent. Là, ils sont quatre, mais l'objectif, c'est qu'avec les années, on en ait peut-être un tout petit peu plus. Et c'est des musiciens tout terrain. C'est Nizar Ali, Yanis Belaïd, Manel Girard, Yvan Djaouti. Et il y avait aussi Yacha Berda qui était avec nous sur l'enregistrement de l'album. Et ce sont des trompettistes tout terrain là aussi.
Ouais.
C'est-à-dire, ils ont cette trompette à quatre pistons dans leur main que je leur ai donnée à Thomas. Et ils ont très vite appris à l'utiliser, très vite appris à maîtriser les quarts de ton dans les gammes, etc. Pour certains, ils maîtrisaient déjà un peu, ils connaissaient déjà un peu. Et voilà. Et on a c'est une sorte de fanfare 2.0, une plus actuelle, on va dire, mais qui a une sorte d'écho à la fanfare qu'on voit sur la pochette qui date de 1925.
C'était ça le brief de l'album quand vous leur avez présenté, c'est on va monter une fanfare?
Je ne leur ai pas dit ça comme ça, ouais, parce que je ne trouvais pas super sexy de dire de cette manière-là. Mais je leur ai dit en tout cas que j'avais vraiment envie d'essayer quelque chose que je n'avais jamais fait avant, et c'est vrai. D'abord, pas de basse, essayer de trouver un groove sans basse. Vous savez que la basse, ça c'est très technique, mais la basse, en fait, c'est génial. Moi, j'adore les basses. Des années, j'ai travaillé tous les sons de basse. Il y a même sur un de mes albums, je crois que c'est sur l'album Diagnostic, il y a même un solo de sub-bass, c'est-à-dire si vous n'avez pas les enceintes pour les entendre, vous n'entendez pas le solo. Et j'aime ce travail-là, mais la basse prend toutes les fréquences,
ouais.
C'est-à-dire elle bouffe tout l'espace. Donc quand on en a besoin, c'est génial, mais si jamais c'est pas indispensable, on peut essayer de s'en passer pour voir ce que ça donne. Et à partir du moment où j'ai enlevé la basse, tous les instruments sonnent magnifiquement bien. parce qu'ils se permettent d'aller dans les graves aussi, sans être cachés. Donc ça, c'est technique, mais j'ai bien aimé cette expérience-là. Et puis après, voilà, les trompettes, il y a 4-5 trompettes à mes côtés qui jouent. Donc ça, c'est incroyable pour un trompettiste d'avoir ça.
Et d'être trompettiste et de jouer à côté d'Ibrahim Malouf, c'est facile ou pas ? On a de la place, on a peur,
Bon, ils n'ont pas l'air d'avoir trop peur, ils n'ont pas l'air effrayés. Non, on s'amuse bien, en fait, on s'amuse bien, on s'apprend des trucs. Hein. Mais même, moi, j'apprends d'eux aussi. Hein. J'apprends d'eux aussi, hein, de plein de choses. Dans cette équipe, c'est que des gens que j'aime. C'est vraiment la famille, quoi, des gens que j'aime. Et y a un jeune, par exemple, là, il a même pas 20 ans. Il venait me voir en concert il y a 10-12 ans avec sa mère. Il avait 8-9 ans. Il est métis libano-français, donc il me voyait jouer de la trompette, il en jouait lui aussi, et j'étais un peu, j'étais son exemple, etc. Et il venait me voir de temps en temps, et puis un jour il venait me voir avec sa mère, et il prend une photo avec moi, et il me dit, moi quand je serai grand, je veux faire le même métier que toi, je veux être comme toi. Et j'ai regardé sa mère, j'ai fait, bon courage, parce que c'est pas facile aussi non plus, hein, donc je veux pas qu'il se fasse des films, quoi. Et elle m'a dit, non mais il a l'air déterminé, et tout. Je dis, ok, je suis allé le voir, je lui dis, tu sais que j'ai fait le conservatoire de Paris. Si tu veux vraiment faire le même métier que moi, tu travailles comme un fou et il faut que tu ailles au conservatoire de Paris toi aussi. Voilà, ne te contente pas du minimum. Va jusqu'au bout et après tu joueras la même trompette que moi et tu vas voir, tu vas faire des trucs incroyables. Et il est allé, il a présenté le concours d'entrée au conservatoire de Paris. Il est allé au conservatoire de Paris. Aujourd'hui, il est étudiant là-bas. Il joue magnifiquement bien. Et quand il prend la trompette, il a tellement copié mes solos. Il connaît tellement par cœur tout ce que je fais que des fois, je ferme les yeux, j'ai l'impression que c'est moi qui joue. Non. Si, si, vraiment. Et donc, et je pense vraiment que c'est cette nouvelle génération-là en qui moi je crois énormément, c'est à eux que je vais confier cette trompette. Et ils vont faire des trucs mille fois plus fous que moi parce qu'ils auront plein d'autres idées, parce qu'ils seront dans une autre époque, parce qu'il y a les intelligences artificielles, parce qu'il y a plein d'autres idées à développer. Et moi, je vais être aux premières loges et je vais regarder quand j'aurai 10-20 ans de plus, je vais regarder, je vais être là, waouh, c'est cool. Voilà, voilà, c'était ça, c'était le rêve de mon père. Je suis heureux de voir ça. Et ça, c'est le principe des trompettes de Michel-Ange.
Magnifique. Merci beaucoup, Ibrahim Malouf.
Un plaisir.
Merci.